Là, vous devez avoir du son. Suis-je amplifié? Excellent. OK. Donc, dans Jean 4, on va lire vraiment les versets à mesure qu'on avance dans le message. Je veux juste lire les quatre premiers versets parce que c'est un peu vraiment la mise en scène, si vous voulez, avant d'arriver au point principal de la rencontre de Jésus avec cette femme, au puits de Jacob. Donc, on peut lire au verset 1, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » Et là, on va voir la rencontre par la suite. Merci Seigneur que tu nous donnes un temps privilégié, un temps spécial, un temps qui est une bénédiction Seigneur d'avoir cette liberté de s'approcher de toi, le Dieu vivant. Merci qu'on a aussi la liberté dans notre pays de se rassembler comme ça. Et merci Seigneur aussi que tu es celui qui nous rencontre là où on est. Que comme avec cette femme, tu as fait un détour pour aller la rencontrer et c'est une rencontre qui a changé sa vie. Merci que tu es ce Dieu qui change les vies, qui change le mal en bien, qui nous rencontre dans ce qu'on vit, là où on est rendu, Seigneur. Et tu es toujours plein de grâce et de vérité. Donc, on te prie, Seigneur, que tu accomplisses tes plans bienfaisants à travers ce qu'on va considérer aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce temps, au nom de Jésus. Amen. Réconcilier à la vraie adoration. Cette femme connaissait quelque chose de l'adoration, mais ici, elle a été réconciliée avec le Dieu qu'on adore en esprit et en vérité. Et donc, avant vraiment d'aller dans les détails de ce qu'il y a dans cette rencontre bien connue hein, entre Jésus et cette femme samaritaine, j'aimerais juste un peu, si vous voulez, mettre la table avec les versets qu'on a lus pour comprendre un peu le contexte. Ensuite, on va plonger dans cette rencontre à proprement parler. D'abord, on voit dans le verset 1 que hein, les pharisiens, les fameux pharisiens, ils avaient appris que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Et donc, ici, dans le fond, ça démontrait la popularité montante de Jésus, un peu comme on l'a vu la semaine dernière. Hein, Jean-Baptiste, lui, qui s'en peinait pas, hein, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais ça a aussi attiré l'attention des pharisiens parce que, justement, vous voyez, oh, il y a plus de gens qui suivent. Puis, savez-vous, il y a même une valeur monétaire à ça parce que un rabbin, un chef religieux, plus il y avait de gens qui le suivaient, plus il faisait d'argent. Pas Jésus, là, mais ces gens-là. Fait que c'est pour ça, oh, là, on a de la concurrence et tout ça. Donc, Jésus, disons, Jésus a attiré l'attention de ce leadership-là, les pharisiens. Et ils se sont concentrés dans leur opposition à partir de ce moment-là sur Jésus-Christ. On sait que aussi, ben Jean-Baptiste, évidemment, il a été envoyé en prison, puis finalement, il aussi a été tué. Mais ça me donne un peu un contexte ici de la tension qui monte. Et je vous le répète, que l'évangile de Jean est vraiment bâti autour, bon, on a parlé de la structure en sept et tout ça, mais autour de tout ce narratif qui monte, une tension qui monte constamment et qui culmine évidemment dans la croix. Mais on voit ça, puis là déjà, oups, on vient de monter d'un cran. Oh, les pharisiens ont la tension sur Jésus, puis là, vraiment, on va voir que c'est une opposition qui va s'accentuer à partir, là, surtout, on va voir dans le chapitre 5, mais là, ça commence à aller dans cette direction-là. Dans le verset 2, ça dit que ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, c'était ses disciples. On en a parlé brièvement la semaine dernière. C'est bien simple, dans le fond, Jésus baptisait à travers ses représentants. Ça dit dans le chapitre 3 que Jésus baptisait, puis ici, ça dit que c'est ceux-là, c'est ses disciples qui baptisaient. Ben, ça va ensemble, ils baptisaient à travers ses représentants. Dans le verset 3, on apprend ici géographiquement ce qui arrivait. Il quitta la Galilée, la Judée, puis il est retourné en Galilée. Donc, il est allé, la Galilée, c'était beaucoup plus calme. La Judée, c'est là qu'était Jérusalem, la ville tumultueuse, où il y avait tous les rassemblements. Et là, il s'en allait vers plus de calme. Et on apprend que au verset 4, il y a une expression ici qui est importante, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. C'est pas juste une question géographique, parce que oui, c'était un chemin plus court, que d'ailleurs les Juifs prenaient pas pour éviter de pas aller sur le territoire des Samaritains, mais Jésus, lui, est allé en plein milieu. Et c'était pas juste pour que ça soit pratique et plus court, mais le « il faut » ici, c'était plus dans l'idée de Jésus poursuivait un but. Parce qu'évidemment qu'il y avait le dessein de rencontrer cette femme, et donc... c'était plus que juste une simple question ici de parcours, mais c'était relationnel. Et ça nous amène ici à quelque chose d'important, parce que Jean, c'est quoi que Jean nous dit qui est le but de son évangile? C'est que ceux qui ne croient pas puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ben, ça montre aussi que Jésus a été à travers... différents moyens pour rejoindre différentes personnes. On avait Nicodème dans chapitre 3, puis là ici on a une femme samaritaine. Juste vous établir un contraste entre les deux, vous allez voir, sont pratiquement diamétralement opposés. Nicodème est un érudit, il est puissant en stature, il est respecté, c'est un homme, on peut dire, orthodoxe, hein, qui est reconnu comme étant droit. C'est un homme, il est juif, et il est dirigeant des Juifs. La femme, elle, elle est fort probablement illettrée, sans influence et en plus méprisée, ignorante, on le voit au sujet là, justement de tout ce qui est la foi et tout ça, puis égarée quant à la foi aussi. C'est une femme, ce qui à l'époque la met au bas de l'échelle sociale. Elle est exclue par sa propre société, on va voir pourquoi dans un instant, mais aussi du monde en général et encore plus, évidemment, d'Israël et de ses dirigeants. Fait qu'elle, elle avait... un cochait toutes les cases, puis l'autre en cochait pas du tout. OK? En gros, c'est ça le contraste entre ces deux-là. Mais c'est spécial qu'on voit Nicodème qui recherche Jésus, il va vers lui de nuit. Mais ici, c'est Jésus qui recherche cette femme. Fait que là aussi, on a un contraste même avec Jésus dans son approche auprès d'eux. Et j'aimerais qu'on considère ici trois étapes pour conduire à celui qui réconcilie à la vraie adoration. Parce que Jésus ici s'est présenté à elle, puis il a fait ça en trois étapes bien simples. Fait qu'on va décortiquer ça dans notre texte ce matin. D'abord, on le voit dans les versets 5 à 12, on le voit établir le contact. La première étape, c'est établir le contact. On voit au verset 5, « Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » Donc, il se rend là, il va là où elle est, il va où sont les pécheurs. Il se rend hors de la zone de confort parce que, je vous dis, les Juifs évitaient cet endroit. « Ah, les Samaritains, on ne veut pas les voir et tout ça. » Puis d'ailleurs, la fille le fait remarquer aussi, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus, lui, il y va, il se rend là de façon volontaire. Et pour nous, j'aimerais juste faire une application en partant ici. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on recherche, est-ce qu'on se plonge les pieds dans le dérangement, voire l'irritation que les perdus peuvent nous causer parfois? Tu sais, les conversations dans la salle de break, les conversations entre des collègues, la famille, pas toujours agréable, c'est pas toujours très glorifiant et édifiant, n'est-ce pas? On voit pas nécessairement... la bonté de Dieu dans tout ça, souvent c'est très bas étage, disons. Mais au-delà de la laideur de tout ça et de l'offense même que ça peut nous causer, est-ce qu'on est ému de compassion comme Jésus? Est-ce qu'on le fait parce qu'on voit la situation spirituelle de ces gens-là, qu'on a une compassion qui nous fait voir que ça ne dérange pas si on souffre tant que c'est pour leur bien? C'est ça la mission de Jésus d'ailleurs. Jésus est venu, hein? En souffrant pour le bien et le péché des autres, les outrages tombaient sur lui alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et donc, on voit déjà ce pattern-là. Et là, on avance, on voit dans le verset suivant, au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis sur le bord du puits. C'était environ la sixième heure. D'abord, le puits de Jacob, on voit dans Genèse, il y a plusieurs puits que Jacob avait creusés. Puis il y a toute une histoire avec ça, parce que là, avec la jalousie, les serviteurs d'Abimélec, là, ils les avaient remplis, ils avaient bouché. Mais là, bon, c'est ça, on voit ça dans la Genèse, comment il y avait différents puits. Et là, eux autres, les Samaritains, se rassemblaient à celui-là pour aller chercher leur eau, hein, c'est vital. Ça dit la sixième heure, ça, c'est midi. Significatif, on va voir ça dans un instant. Puis là, ben, on voit aussi l'humanité de Jésus, il était fatigué. Okay? Jésus est 100% Dieu, 100% homme, il était sujet aux limitations humaines. Il était fatigué, puis il avait soif. Okay? Donc oui, Dieu fait homme, mais homme dans son humanité, ici on le voit, dans sa limitation. Et là, verset 7, ça nous dit, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. » Cette femme, elle est seule. Et le fait qu'elle soit seule, c'est anormal. Parce que les femmes, d'habitude, allaient ensemble. Ça faisait partie aussi, bon, du cercle social. Elles allaient ensemble le matin, avant la chaleur du jour, allaient pour aller puiser l'eau. OK? C'était très logique. OK? Pourquoi aller en plein midi quand il fait chaud, quand on peut y aller tôt le matin? Puis en plus, ça l'aide avec tout ce qu'on fait dans une journée, avoir l'eau déjà. OK? Mais elle, on voit que déjà, elle est exclue de par le fait qu'elle est seule et à midi. OK? Elle vient quand les femmes sont déjà allées. Puis là, elle se retrouve avec Jésus. Et Jésus connaissait les normes sociales, la honte, le fait qu'elle était rejetée à cause de sa réputation. Aurait pu la rejeter et puis s'en éloigner. Mais non, c'est lui qui tend la perche. Puis il pose une simple question. Donne-moi à boire. Question tout à fait légitime. On peut dire qu'il y a une simplicité là-dedans, de moi à boire, hein, qui était venu pour puiser. Mais c'était beaucoup plus qu'une juste une question. Puis pour pouvoir boire, c'était le moyen d'établir le contact. Jésus établissait le contact avec elle à travers cette simple petite question pratico-pratique. Et là, verset 8, on apprend que ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, ils étaient seuls avec elle. Et c'était un moment privilégié de proximité, d'intimité, où est-ce qu'ils pouvaient tranquillement parler, prendre le temps de jaser l'un avec l'autre. Un peu comme avec Nicodème, OK? Où est-ce qu'ils étaient tranquilles ensemble aussi. C'était le soir, hein, il n'y avait pas de brouhaha. Ben là, c'était le jour, mais justement en plein jour de même, il n'y avait pas d'autre monde, pas de distraction. Ça aussi, c'est important pour le contexte. On met la table ensemble, là, OK? J'ai une application par rapport à ça. C'est bon pour nous de rechercher, de prier pour ces genres de rendez-vous divins. Parce que c'est bien, des fois, on peut parler à différentes personnes qui sont en groupe, mais il n'y a rien comme une rencontre individuelle. Puis tu sais, un temps où est-ce que c'est calme, puis évidemment, là, je ne parle pas juste des éléments extérieurs et physiques, où est-ce que le cœur est disposé. Peut-être qu'il n'est pas très calme, le cœur, mais des fois, justement, dans l'agitation, puis au secours, j'ai peur, c'est là qu'il peut être le plus disposé, parce que la personne, justement, voit son besoin, là, mais je parle de un calme conversationnel où est-ce qu'on peut prendre le temps de parler. On n'est pas trop pressé par le temps, OK? C'est bon de prier pour ça, c'est des rendez-vous divins. En passant, c'est bon pour un chrétien pour évangéliser, mais c'est aussi bon pour entre chrétiens, pour s'édifier, pour inviter Jésus en plein milieu de nos situations qu'on vit, OK? C'est une bonne requête de prière. Seigneur, donne-moi ces moments-là, tes moments. Ces rendez-vous, est-ce qu'on voit que c'est lui qui a créé l'occasion et l'atmosphère où est-ce qu'on peut connecter, établir le contact? Mais tout ça, c'est bien beau, puis là, ça semble presque idéaliste, mais cette conversation commence déjà avec de l'hostilité, parce que Jésus lui pose cette simple question-là, puis qu'est-ce qu'elle répond à la femme, verset 9? La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Elle dit toutes les raisons pour lesquelles il ne devrait pas avoir cette conversation-là. Voyons, moi, je suis une femme samaritaine, puis les Juifs, là, ils n'ont pas de relation avec les Samaritains. Fait que, elle, le fait qu'elle soit une femme, si vous allez au Moyen-Orient, ça ne se fait pas pour un homme d'adresser la parole à une femme en public. Vous demanderez à Cindy Grover, elle, c'est une femme qui va pour aller atteindre les femmes avec l'Évangile, parce que dans les pays comme ça, ça se fait pas. Peut-être aussi dans certains des pays, c'est plus, je pense, c'est plus peut-être relié à l'islam du Moyen-Orient, ça peut être dans certains pays d'Afrique ou peut-être même d'Asie qui sont musulmans. Mais bon, donc Jésus est reçu, on peut dire, avec une certaine hostilité. Hein, elle ne rejette pas complètement, mais elle dit, t'es pas supposé me parler comme ça, fait que ça commence de cette manière-là. Mais Jésus ne se laisse pas décourager par ça. Il ne déroge pas de son but. Et en passant, c'est bon pour nous autres aussi. Il ne faut pas se laisser arrêter à la première opposition. Et là, qu'est-ce qu'on le voit faire au verset 10? Il lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Là, il a suscité sa curiosité. Parce que, en parlant comme ça, il l'amène au fait que il y a quelque chose que tu comprends pas, il y a quelque chose que tu manques. Si tu connaissais, ça veut dire, ben, tu connais pas. OK? Puis là, il développe, puis là, justement, il parle de lui qui il est, mais aussi de cette eau vive. OK? Et donc, elle qui est dans les conventions sociales, et, OK? Jésus la ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à lui, à connaître celui qui lui parle, le qui. OK? Jésus la ramène au qui. La personne dans l'univers qui donne de l'eau vive, éternelle. Puis là, il a juste dit eau vive, là. Il n'a pas encore donné tous les détails, mais il arrive avec ça. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de voir un parallèle avec Jérémie 2, 13. Quelqu'un connaît ce verset-là par cœur? Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des fontaines crevassées, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. OK? Et cette femme-là, elle allait au puits, il y avait une image-là, mais sa vie, c'était vraiment cette image de Jérémie, la fontaine crevassée qui ne retient pas l'eau. Puis là, Jésus, il parle d'eau vive. OK? Je pense vraiment qu'il y a un parallèle à faire absolument directement ici avec ce qui est en train de se passer dans cette conversation. Et là, ça continue. La femme qui parle au verset 11 dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Hop, Jésus l'a ramenée au centre. Elle retourne en périphérie. Elle n'a pas saisi le qui de Jésus, là. Jésus dit, « Si tu savais celui, elle a ce... » Pas ce réfugié, ouais. À s'égare dans le où. Hein, où c'est que tu vas trouver ça? Hein? Donc, probablement qu'à penser aussi, même en termes pratiques, là, parce que avec un puits, c'est parce que c'est avec des sources souterraines, puis ah, mais peut-être qu'il y a une source plus loin, puis que, ou un puits dont je n'ai pas entendu parler, parce que dans le fond, un puits, ça se rattache à, comme on pourrait dire, une rivière souterraine. Là. OK? Fait qu'elle, c'est ça. Elle manque le qui pour aller vers le où. Puis là, ça continue, verset 12. « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Donc, elle continue encore à s'égarer, mais là, dans toute l'idée de la culture et de la religion. Jacob, c'était un peu leur Abraham, c'était leur patriarche, OK? Il s'identifiait à eux de façon culturelle et religieuse, OK? On va pas rentrer dans tous les détails, mais tantôt, on va donner un peu plus de choses là-dessus, mais... Autrement dit, non seulement elle s'égare dans le « où », mais aussi dans le « mauvais qui ». Ça rappelle Jacob. OK, Jacob, c'est bien beau, là, mais Jacob, c'est pas lui qui donne l'eau vive. Comprenez-vous? Donc, elle s'égare dans le « où » puis dans le « mauvais qui ». Puis, rappelons-nous que lorsqu'on parle de Christ, il y a toujours une guerre spirituelle par rapport au centre d'attention, au focus. Sur quoi est portée l'attention? Et pour nous, c'est simple, c'est simplement de toujours ramener à Jésus-Christ. Même juste Dieu, en général, c'est pas assez. Jésus-Christ, c'est le Rédempteur. Dieu se révèle en Jésus-Christ. Puis on peut, des fois, se faire un peu s'égarer, à gauche et à droite, si on ramène pas là. OK? Et je dirais même de façon plus précise de ramener à la personne de Jésus-Christ, qui il est, Dieu fait homme, mais aussi à son œuvre, la croix, la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il est l'ultime réponse aux besoins ultimes de l'homme. C'est pas compliqué. Tout et par lui, en lui, pour tout homme, toute femme sur cette terre. Et donc, ça m'amène à la deuxième étape. Là, il a établi le contact. Oh là, la conversation a pris, là. Ça serait dû. Il n'aurait pas pu le laisser. OK, ben d'abord, je m'en vais. Non, non, là, il y a vraiment quelque chose qui se passait là. Et donc, il a établi là-dessus. Avec la deuxième étape ici, il tourne la conversation vers le besoin spirituel. Ça, c'est bien beau parler d'eau, là. Mais elle avait un besoin spirituel et Jésus tourne la conversation vers ça dans les versets 13 à 19. Regardez versets 13 et 14 pour commencer. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et donc, là, on peut voir que Jésus fait avancer la conversation vers le besoin spirituel. Puis là, il parle de qui il est, si tu savais qui, te demande. Mais aussi, là, il parle, ça nous pointe vers son œuvre. C'est qui celui qui est capable de donner de l'eau qui va jusque dans la vie éternelle? Ça nous pointe, sans nommer la croix, mais évidemment, c'est par l'œuvre rédemptrice, c'est par ce qu'il est venu faire. Donc, non seulement sa personne, mais aussi, qui peut faire ces choses-là, donner de l'eau qui dure jusque dans la vie éternelle? Okay, donc, il pointe non seulement à qui il est, mais là, il commence à tourner le coin pour aussi qu'est-ce qu'il est venu faire. Il met devant cette femme le surnaturel. Son offre n'a rien de terrestre et de banal. Il la met devant le fait que ce qu'il lui donne n'est pas de ce monde. Il dirige la conversation vers la réalité spirituelle. Parce que l'eau, c'était juste le prétexte ou le côté physique de cette réalité spirituelle de l'eau vive. Okay? Donc, il part de ce qu'elle connaît pour l'amener vers ce qu'elle ne connaît pas. Il pointe à l'impossible, il pointe à ce qui n'est pas de ce monde. Okay? Encore là, voyez-vous comment il est toujours dans l'idée d'attiser la curiosité. Il l'amène vers ce qu'elle ne connaît pas. Okay? Je dirais que ça, c'est, puis en passant, on pourrait, tu sais, dans Ésaïe, à deux endroits, dans Zacharie, il y a des endroits que ça parle de l'eau vive, tu sais, il y avait des passages prophétiques qui parlaient de cette eau-là. Probablement qu'elle ne connaissait pas ça. Avec Nicodème, il aurait sûrement pu référer à ça, mais là, Jésus ne peut pas référer aux Écritures, puis tout ça, parce que probablement qu'elle en connaissait de part, il y avait dans sa religion. Une certaine référence aux Écritures, mais juste les 5 premiers livres de la Bible, là. Fait que Ésaïe, elle ne connaissait pas, là. Bon, ou en tout cas, fort probablement pas. Mais, donc, Jésus l'amène encore là à se poser des questions. Si elle recherchait plus, ben là, son appétit était attisé. Et n'est-ce pas quelque chose, pour nous, là, de présenter Christ, c'est pas d'essayer tant de convaincre la personne que d'amener la personne à rechercher ce qu'il ne connaît pas. On présente une personne que la personne ne connaît pas. Parce que, tu sais, ça dit dans 2 Corinthiens que si nous connaissons Jésus maintenant, nous ne le connaissons plus selon la chair, on le connaît selon l'esprit. Ben du monde, vous allez voir au Québec, vous leur dites, hey, Jésus, le connaissez. Ah, ben oui, je sais c'est qui Jésus. Mais ils ne le connaissent pas. Ils connaissent des choses au sujet de Jésus, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Fait que c'est ça ici l'idée. Parler de quelque chose de plus que juste le « ici, maintenant », ça va plus loin. Puis je vous donne juste une occasion, un exemple ici. Tu sais, puis là, il faut faire attention, les termes qu'on emploie, être sûr que les gens comprennent. Tu sais, des fois, si on dit « Hey, t'as besoin d'être lavé dans le sang de Jésus », il y a bien du monde qui vont dire « C'est quoi ça veut dire, ça? Laver avec du sang, là? » Mais si on parle de plein pardon, d'être pardonné pleinement pour nos péchés, puis là, encore là, pour juste dire le mot péché, pour nos fautes, nos erreurs, passées, présentes et à venir. Oups, là, ça peut se dire, ah ouais, être complètement pardonné. Avoir une paix parfaite ou une paix qui dépasse la compréhension. Le fruit de l'esprit. Produire quelque chose qui est vivant de par nos vies. Juste des fois d'amener ces choses-là, ça peut susciter de la curiosité. Attends un peu, il me parle de quelque chose, elle me parle de quelque chose que je ne connais pas, c'est pas de ce monde. Puis quelqu'un qui recherche plus, ça va aller susciter la curiosité. OK? Donc, c'est comme ça ici qu'il commence à tourner la conversation vers le besoin spirituel de cette femme. Et regardez ce qu'elle répond au verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Bon, enfin, j'aurais plus la honte d'être la seule qui vient comme ça. Puis, voyez-vous comment, encore une fois, là, elle bifurque. Déjà, elle avait bifurqué avant. Là, ici encore, elle bifurque parce que là, elle est dans l'eau physique. Là. Jésus l'amenait vers le spirituel, vers l'éternel, mais elle retourne à un puits avec de l'eau qu'elle arrive juste à boire une fois, puis elle n'a plus besoin après. Dans le fond, elle remet de l'avant ce vers quoi Jésus veut s'éloigner. OK? Elle remet le physique alors que Jésus veut l'amener dans le spirituel. Jésus veut l'amener ailleurs, veut l'amener vers ce qu'elle ne connaît pas. Et ça, c'est très typique. Écoutez bien, quand on partage l'Évangile à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais aussi, mes chers frères et sœurs, avec un chrétien. Des fois, on peut parler des choses spirituelles, puis là, pouf, on en repart, puis dans le physique, puis dans les choses d'ici-bas. On peut facilement s'égarer en gardant les yeux sur ce qui est ici-bas, alors que la réalité de la vie chrétienne, c'est spirituel. La Bible nous dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible nous dit que notre vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et tous les éléments de la guerre spirituelle dans les lieux célestes. Puis là, comprenez bien, là, je ne suis pas en train de dire « Hey, tu n'as pas le droit de parler d'autre chose que juste les choses spirituelles quand tu es avec un chrétien puis une chrétienne. » Puis on ne fait pas la police du langage, là, vous comprenez? Mais c'est plus une question de but ou de focus. Est-ce que j'ai l'intention, le but? Est-ce que mon attention est vers les choses spirituelles? Parce que c'est ça vraiment, tu sais, pensez-y, là. Il y a juste avec un chrétien, une chrétienne, qu'on peut parler de ces choses-là puis vraiment se comprendre. Parce qu'on est dans cette réalité, on est en Jésus, puis quand on parle de ça, ça résonne puis on se comprend. C'est juste, hey, pourquoi manquer une belle occasion quand on l'a comme ça? Ça peut être aussi un rendez-vous divin. Et donc, puis on s'entend aussi que ça fait partie du fait qu'on est dans une guerre spirituelle. Si on marche dans la chair, on ne lutte pas selon la chair. On est avec des frères et sœurs. On s'édifie dans l'amour, dans la vérité. Donc, petite application ici avec le verset 15. Et regardez le verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Ça, c'est le point pivot, là. Ceux qui prennent des notes ou qui écrivent dans leur Bible, là, le verset 16, c'est bien simple. Mais là, Jésus fait tourner les choses, OK? Il lance une question qui va avoir énormément de conséquences par la suite, mais c'est cette simple question qui a fait tourner les choses. Parce que, comme je vous dis, ça s'en est d'un bord puis d'autre, mais là, avec cette question-là, vous allez voir, ça l'amène les choses plus loin. La femme de répondre, au verset 17 et 18. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui répondit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Jésus n'est pas en train de l'accuser et de dire « Hey, t'es donc bien pas bonne, t'as pas de mari. » Mais, OK, bon, Jésus est Dieu puis il connaît toute la situation. Puis, je pense qu'il n'essaie pas d'y mettre son péché d'en face d'une façon accusatrice comme, mettons, un pharisien l'aurait fait avec la femme prise en flagrant délit d'adultère dans le chapitre 8. Mais plutôt, il veut attiser sa conscience. Il s'adresse à sa conscience. OK? Dans le but d'amener la conviction spirituelle. Savez-vous que c'est beaucoup plus efficace de simplement faire appel à la conscience des gens que d'essayer de les accuser? Parce que quand que nous, on les accuse, là, la personne peut s'en prendre à nous. T'es donc bien pas fin, t'es donc bien hypocrite, puis t'es pas mieux. Là, on est au niveau humain. Mais quand on pose une question puis qu'on attise la conscience, là, c'est face à Dieu que la personne se tient. Elle ne peut pas nous mettre le blâme parce que nous, on a juste posé une question. Ça va y rester. Pensez-vous, aimez mieux que la personne soit en opposition à nous au niveau humain ou qu'elle se retrouve à se poser la question devant Dieu? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas mal mieux, hein? Une simple question. OK? Puis en passant, tu sais, quand Jésus a dit que quand vous parlez, inquiétez-vous pas, le Saint-Esprit va vous donner au moment. Ça, c'est un bon exemple. Je peux pas vous dire, OK, tu vois quelqu'un, puis là, il faut que tu dises ça. Puis non, le Seigneur, c'est du sur-mesure. On parle avec quelqu'un, puis là, il nous a... Mais juste d'avoir l'idée en tête que, au lieu d'essayer d'accuser, puis nous, de mettre, OK, le point sur la table en disant, bien ça, c'est ton péché, puis tout ça, poser la question, puis amener les gens à réfléchir sur son péché devant Dieu. Pas qu'on ne fait pas comme s'il n'y avait pas de péché, mais on l'amène devant celui pour qui c'est vraiment important de le considérer. C'est juste ça que je suis en train de dire. C'est pas la question de pas parler de péché, faire comme s'il n'était pas là, mais de l'amener devant la conscience de la personne, devant Dieu. Et c'est ça ici que Jésus fait. Et regardez sa réponse, justement, verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Oh, t'as peu, celui qui me parle demain, c'est pas n'importe qui. Effectivement. Et le but ultime ici de tourner la conversation vers le besoin spirituel, comme Jésus est ici en train de faire de façon majestueuse, c'est de produire une conviction par rapport à la personne de Jésus-Christ. C'est ça qu'elle arrive. Hein? Tu me dis ces choses-là? Parce qu'évidemment, Jésus, t'es pas obligé de savoir tout ça. C'est la première fois qu'ils se rencontraient, là. Donc, je vois que tu es prophète. Puis, je dirais, quand on va plus loin, non seulement une conviction par rapport à la personne de Jésus-Christ, mais pour nous amener de là aussi à parler de son œuvre, de sa rédemption, parce que non seulement il est le sauveur, mais il sauve, et il a été à la croix, et il a vaincu la mort par la résurrection. Donc, la personne est l'œuvre de Christ. Pourquoi? Parce que le but là, de notre conversation, puis encore là, c'est vrai pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis c'est vrai aussi pour quelqu'un qui est sauvé, c'est de passer de la confiance de soi, OK, en soi, puis OK, notre religion, OK, la transférer à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est de même que ça commence, c'est ça le salut, hein, recevoir Jésus comme son sauveur, c'est qu'on arrête de mettre notre confiance dans notre religion, d'être une bonne personne ou tout ça, pour avoir la place dans l'œuvre parfaite de Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nos péchés, qui est ressuscité pour donner la vie. Bien, c'est vrai aussi dans la vie chrétienne, parce qu'on a facilement cette tendance à se confier en nous-mêmes. Il arrive quelque chose, puis on dit, « Ben non, Seigneur, tu n'as pas le droit de faire ça. » Non, il a le droit de faire ce qu'il veut, puis quand on voit Jésus tel qu'il est comme ça, puis son œuvre, on dit, « OK, Seigneur, ma confiance, je vais la mettre dans mes raisonnements, dans comment je me sens par rapport à ce que je vis, je la mets en toi. J'accepte, je me soumets à ce que tu as pour moi là-dedans. » Comprenez? Tournez la conversation vers le besoin spirituel, et ça nous amène maintenant à la troisième étape, inviter à l'authentique adoration. Alors moi, j'ai du fun, je trouve ça vraiment pas pire, j'aime vraiment ce texte-là. Là. J'espère que je ne suis pas trop tout seul, je vois une coupe de sourire. C'est beau, la parole de Dieu. Fait que là, ça avance, là. Imaginez-vous, là, toutes ces choses-là, là. C'est arrivé pour de vrai, là. C'est pas une fable ici, là. C'est vraiment une conversation qui a eu lieu il y a 2000 ans. Fait que là, bon, hey, il arrive toute une affaire. Hey, Seigneur, tu dois être prophète. Fait que là, on arrive dans le verset 20, où est-ce qu'on peut lire, là, c'est la femme qui parle. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, en parenthèse, les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est la troisième fois la petite madame qui bifurque, qui diverge. Donc là, Jésus a dit, ah, elle ne comprend rien, je m'en vais. Faut faire attention de ne pas faire ça nous-mêmes. Je veux dire, comment une fois avant qu'on arrive au Seigneur, qu'on a bifurqué et qu'on a divergé de l'essentiel? Jésus est patient avec elle, il est bon. Fait qu'elle, c'est ça, elle diverge ici. Elle amène vraiment ici la conversation sur, on pourrait dire, la religion historique ou extérieure. Okay? C'est toute l'idée, là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça serait trop long, mais les Samaritains et les Juifs différaient dans leur adoration. Je l'ai dit tantôt, les Samaritains ne reconnaissaient que les cinq premiers livres de la Bible, mais aussi, ils adoraient sur le mont Gérazim, parce que, bon, il y a toutes sortes de raisons historiques à tout ça, mais, tiens, elle a dit, ah, ben regarde, vous, c'est là, vous faites ça de même, puis nous, c'est là. Fait qu'on voit que elle s'en va encore sur littéralement un autre terrain, OK? Mais en fait, c'est parce qu'elle est ignorante. Elle ne connaît pas le vrai Dieu. Elle ne sait pas c'est quoi la vraie adoration. Elle a une religion, mais elle n'a pas une relation avec le Dieu vivant. C'est pour ça qu'elle parle de même. N'est-ce pas vrai pour tout le monde qu'on connaît qui ne sont pas encore régénérés, qui ne sont pas nés d'en haut, nés de l'Esprit de Dieu? C'est pour ça que Jésus l'approche ici, en l'invitant à l'authentique adoration. Puis ça commence simplement en invitant à Jésus. Parce que tout commence avec Jésus. C'est ça la formule la plus efficace. Vous voulez une formule gagnante? Invitez à Jésus! Pas plus compliqué. Comme on a vu avec, c'est-tu Nathanaël ou Philippe? Viens et vois! On a trouvé le Messie. Hein? Invitez à Jésus. Puis regardez verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, ce n'est pas une invitation à un lieu, une montagne ou l'autre, une église ou l'autre, ou un temple, OK? Mais c'est une invitation à une personne. Donc, ce n'est pas externaliste, c'est relationnel. OK? Ce n'est pas une place, puis tout ça, OK? C'est une relation avec une personne, avec Dieu. Verset 22. Vous, ici, Jésus, en tant que juif, parle aux Samaritains, comme à elle en tant que Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est pas une invitation à l'ignorance, à juste adorer n'importe comment sans qu'on sache c'est quoi. Mais non, c'est une invitation à une connaissance relationnelle, à une relation qui éclaire l'intelligence, la volonté, les sentiments, c'est global. Puis lorsqu'il dit ici, le salut vient des Juifs, ben quand on voit le contexte, c'est que la Bible nous dit que, ben tiens, je vais vous lire Romains 3.1, « Quel est donc l'avantage des Juifs et quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Dieu a donné sa parole. » L'Ancien Testament au peuple juif. Puis on lit aussi dans Romains 9, à partir du verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Ça, c'est un autre doxologie. Dieu bénit éternellement. Amen. Le Rédempteur, Jésus, est juif. Il est issu des Juifs, selon la promesse qui avait été donnée aux Juifs. Okay? C'est ça l'idée de le salut vient des Juifs. C'est pas que c'est les seuls qui peuvent être sauvés, c'est que Dieu, dans son dessein, a désigné ce peuple-là par lequel allait venir le Rédempteur. Et toute l'histoire de la rédemption se passe à travers ce peuple-là issu d'Abraham, quand on dit Israël, ben c'est un autre des patriarches, c'est Jacob, mais Dieu l'a renommé Israël. Et donc, ça c'est à comprendre ici, puis quand Jésus dit aussi « adorer ce que nous connaissons », ben c'est l'idée, c'est ça, on connaît le Rédempteur parce que Dieu nous a donné, tu sais, leur adoration n'était pas basée dans des traditions humaines, dans l'imaginaire humain, mais dans les promesses de Dieu. Il connaissait, il parlait en connaissance de cause quand il parlait d'adorer Dieu parce que Dieu s'était révélé à eux. OK? Tout le monde a compris ici? Good. Ça nous amène au point crucial ici, tellement important, de ce que Dieu recherche. Versets 23 et 24. Donc, Jésus encore qui parle à cette femme, il dit, « Mais l'heure vient! » Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quel verset important! Et ici, vraiment, tu sais, Jésus, là, il a fait beaucoup de chemin là, à partir de juste demander de l'eau, puis là, il est rendu à parler de la vraie adoration de Dieu en esprit et en vérité. Et ça nous dit ici que c'est ce que Dieu recherche. Ou on peut dire, Dieu recherche ceux qui le recherchent. Lui, la rédemption, elle est personnelle. La rédemption, elle est relationnelle. Qui le recherche, lui, puis aussi ses promesses. Parce que Dieu n'a pas juste dit ça comme ça, ah, « ben, je suis Dieu, puis essayez de me trouver. » Non, il a donné plein de promesses par lesquelles on peut le connaître. Dieu s'est révélé. Puis là, ici, il y avait l'Ancien Testament, mais là, avec Jésus, il se révèle pleinement dans la personne de Jésus et dans l'œuvre qu'il est venu accomplir. Donc, maintenant, on a la pleine révélation. Tout ce qu'on a besoin de connaître au sujet de Dieu nous a été révélé. Et ça, c'est ce qui amène la restauration de l'adoration. Dieu ne nous a pas juste donné la révélation de qui il est pour qu'on sache, « Ah, ben OK, là, je sais qui c'est Dieu, puis je suis content, je peux mettre ça dans mon cahier de notes. » Non, c'est pour qu'on puisse l'adorer comme il est. Encore là, voyez-vous comment c'est relationnel, c'est pas juste intellectuel, non, c'est vraiment, c'est pour que notre être soit en relation appropriée envers ce Dieu, qu'on l'adore, qu'on lui donne l'honneur qui lui est dû. Puis là, d'ailleurs, là-dessus, J'ai une couple de points à vous partager presque en conclusion par rapport à la restauration de l'adoration dont Jésus ici parle. Ou pour le dire dans les mots, selon notre point, dans le fond, lorsqu'on adore Dieu, on est invité à cinq choses ici que je vous souligne. Parce que invité à l'authentique adoration, c'est quoi? Mais d'abord, c'est une invitation à être centré, ou on pourrait dire recentré pour un enfant de Dieu, sur Dieu. La vie, c'est pas par rapport à nous. Même pour un non-sauvé, là, pourquoi ça va tellement mal la vie d'un non-sauvé? Parce que Dieu n'est pas le centre de sa vie. Pourquoi ça va mal dans la vie d'un enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme son sauveur? Ça va mal quand Dieu n'est pas au centre de nos pensées, de notre cœur, de notre volonté, de nos émotions, de toute notre être. OK? Donc, l'adoration en esprit par vérité, c'est une invitation à se centrer sur la personne de Dieu. C'est aussi une invitation, deuxièmement, à reconnaître la dignité de Dieu. Tantôt, tu as cité Apocalypse. Toi, je pense que c'était chapitre 4, c'est ça? 4-11. Ben moi, j'ai retenu ici 5, les premiers versets du chapitre 5. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici. » Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Lui, il est digne. Et donc, l'invitation à l'adoration authentique, c'est reconnaître la dignité de Dieu. Dieu est digne de toute notre adoration, de notre louange. Non seulement c'est centré sur Dieu, mais sur le fait qu'il est le seul dans tout l'univers qui a cette dignité intrinsèque, le fait qu'il est Dieu, puis le fait de ce qu'il a fait par la rédemption, il est digne de toute notre adoration. Mais aussi, savez-vous quoi? On voit dans l'expression « adorer Dieu en esprit et en vérité », on voit que c'est aussi une invitation, troisièmement, lorsqu'on est invité à l'authentique adoration, c'est une invitation à refléter la nature de Dieu. Ça dit, on l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit, puis on l'adore en esprit, ça reflète qui Dieu est. Puis aussi, on peut dire que ce n'est pas du domaine du superficiel, mais c'est ou tu sais, juste un rituel externe, mais c'est profond, c'est réel, c'est relationnel. Et n'oublions pas aussi que, j'espère que ça, on ne néglige pas, mais l'adoration, c'est une invitation à rencontrer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On prie pour ça. Puis, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu habite en vous. Vous l'avez rencontré, puis il ne vous laissera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Mais il y a aussi un sens, et on parlait de ça hier dans le cours de théologie, où est-ce que le Dieu qui vit dans son peuple rencontre aussi son peuple d'une manière spéciale et personnelle lorsqu'il se rassemble. Par exemple, ça dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Donc, il y a un sens dans lequel Dieu nous rencontre. C'est vrai comme peuple de Dieu, comme Église, mais aussi c'est vrai individuellement. À chaque jour, quand on se lève, qu'on chante ses louanges, qu'on ouvre sa parole, qu'on lui ouvre notre cœur, on rencontre Dieu. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et pour terminer sur l'adoration authentique, non seulement c'est une invitation à se centrer sur Dieu, reconnaître la dignité de Dieu, refléter la nature de Dieu, rencontrer Dieu, mais aussi c'est une expérience globale. C'est pas juste quelque chose dans notre tête. C'est pas juste quelque chose dans nos émotions qu'on ressent. C'est pas juste quelque chose là, qu'on veut faire puis qui fait appel à notre volonté. C'est une expérience globale de tout notre être. Comme ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça m'amène à conclure avec les deux derniers versets qui nous restent pour le texte. Versets 25 et 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Hey, c'est clair ici, des fois les gens disent, ah, Jésus n'a pas vraiment dit qu'il était Dieu, puis tout ça. Mais non, ici, Jésus, je le suis, moi qui te parle. Il a fait pareil avec l'aveugle. Jésus, souvent, s'est identifié comme étant le Messie, celui qui devait venir. Puis évidemment, toute la divinité est attribuée à ça. Et donc, il n'y a pas de doute ici sur le fait de qui Jésus est. Il le dit lui-même, il se présente tel quel. Et Jésus aussi, aujourd'hui, se présente tel qu'il est à nous. Il n'y a pas de tambour et trompette, c'est pas avec Dieu des choses pour essayer de faire du tape à l'œil. Dieu se présente tel qu'il est, il est esprit. Donc, il se présente au cœur. Et peut-être qu'il se présente à ton cœur pour être ton sauveur. La conviction que tu es encore asséché, que tu n'as pas encore l'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et peut-être que même dans le passé, et peut-être que c'est même ta tendance maintenant, Dieu s'est présenté à toi, mais tu diverges, tu bifurques, tu t'éloignes. Mais la vraie adoration, la réconciliation avec l'adoration, c'est simplement s'humilier devant Dieu puis le recevoir, accepter l'invitation. Comme cette femme, elle a rencontré Dieu, elle n'était plus pareille. Au point que les gens qui la voyaient puis qui l'entendaient ont été touchés parce qu'elle leur partageait sur cette rencontre qui a absolument tout changé sa vie. Et Dieu nous appelle à lui ce matin. Et on peut dire que le message au complet aujourd'hui, c'est un appel pour le salut, parce que c'était vraiment ça ici, mais enfant de Dieu aussi, on est tellement, c'est facile d'être distrait. Et je dirais, en 2025, et que c'est facile de bifurquer, de s'égarer à gauche ou à droite, de se laisser prendre notre attention dans les choses d'ici-bas. N'est-ce pas? Mais Dieu nous appelle à lui, puis Dieu nous appelle à la vraie vie, à l'adoration en esprit puis en vérité. Donc, je pense que tout le monde ici, que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ou ceux qui le connaissent, Dieu nous appelle à la repentance. Qu'on se repente de notre autosuffisance, du fait d'aller à ces citernes d'eau qui ne retiennent pas l'eau pour essayer de trouver la satisfaction là-dedans. Et qu'on vienne à Dieu qui est la source d'eau vive. À ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À ce Dieu qui est vivant, qui donne la vie et qui la donne en abondance. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Merci que Seigneur, de façon majestueuse, tu t'es présenté à cette femme. Et malgré le fait que elle avait une certaine confusion, elle avait aussi même aussi une réticence, Seigneur, elle a fini par te reconnaître pour qui tu es vraiment. Et c'est ma prière, Seigneur, s'il y en a qui ne te connaissent pas encore réellement, en esprit et en vérité, qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut. Et je te prie aussi, Seigneur, pour nous, tes enfants. Ah, il y a un cantique qui dit « T'aimer Jésus, te connaître. » Et il y a différents cantiques qui viennent dans mon cœur en ce moment par rapport à cette joie de te connaître, de te découvrir. Rien dans ce monde ne peut égaler ça. Donc, Seigneur, moi le premier, Seigneur, je veux délaisser cette tendance sournoise et si facile à m'attacher aux choses d'ici-bas. Mais je veux porter les regards en haut et m'attacher aux choses d'en haut. Et que, Seigneur, tu sois notre joie, notre paix en toutes choses, Seigneur. Merci pour ce temps, c'est précieux. Merci que tu nous rencontres maintenant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est à votre